et Info Club Sandwich. Salut tout le monde, vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative préférée sur le 87.7 FM, sur radiocampusamiens.fr, sur le DAB+. On est le jeudi 3 septembre 2026, encore une journée et c'est le week-end. Aujourd'hui, autour du plateau, je suis avec Colline pour l'interview du jour. Qu'est-ce que tu reçois ?
Salut Sonia, je reçois Philippe, président de l'association Œuvre du Sahel Horizon Burkina. Bonjour.
Bonjour. Merci. Alors, merci à vous de nous avoir invités aujourd'hui.
Avec grand plaisir. On va commencer d'abord par une petite question de présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites au sein de l'association ?
Eh ben donc, je m'appelle Philippe, je suis président de cette association depuis une quinzaine d'années maintenant. Et cette association, elle est présente sur le terrain là, depuis les années 90, la fin des années 90 en fait, présente au Sahel et historiquement surtout au Burkina Faso. Voilà. Mais maintenant, on a élargi notre champ d'action, mais on va en parler un petit peu plus tard, je pense.
Oui, effectivement. Alors, vous l'avez dit, cette association, elle a été créée dans les années 90. Quelle est l'initiative de ce projet ?
Alors, c'est une longue et belle histoire, en fait. C'est une histoire d'amitié avec des Burkinabés. Dans les années 90, les étudiants africains qui venaient en France allaient sur deux sites. Soit ils venaient à Montpellier, étudier à Montpellier s'ils faisaient des études scientifiques, soit ils venaient à Amiens s'ils faisaient des études littéraires. Et on avait notre ami, alors on ne savait pas encore que ça deviendrait notre ami, mais Mathieu Ouedraogo, qui était un de ces étudiants burkinabés qui venait pour étudier l'anglais, pour faire une licence d'anglais. Et donc, il a séjourné un certain temps à Amiens, il s'y est fait beaucoup d'amis, il a même accompagné des groupes de personnes du troisième âge, c'était une figure. Et on a tissé des liens avec Mathieu, et il y a eu cette année de grande sécheresse là, dans les années 90, où il a lancé un appel avec nous, il a lancé un appel à France Bleu Picardie à l'époque pour aider son village. Et ceux qui étaient ses amis ici à Amiens, des amis français, là, ont décidé de se constituer en association pour aider Mathieu. Et c'est ça le début de la sauce, création de l'aide alimentaire au tout début parce que c'était critique, mais aussi après des actions sur le fond, sur l'irrigation, sur le scolaire, avec création de l'école de Mankoula. On parle de choses dans les années 90. Autour de Mathieu. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que Mathieu, il n'est pas resté à Amiens. Il a fait un séjour ici, il a laissé un excellent souvenir, et il est retourné comme prof d'anglais au Burkina Faso. Il a enseigné à la fac à Ouagadougou. Voilà. Et hélas, maintenant, Mathieu est décédé, mais voilà, là, d'autres ont pris le relais, et on va peut-être... On va s'en parler aussi.
Ouais. Mais justement, comment est-ce que vous continuez d'honorer la mémoire de Mathieu qui est décédé en 2020 ?
Alors, on a un certain nombre de correspondants. Au fil des années, à partir de cette base d'action sur le village de Mankoula, on a rencontré d'autres personnes on a développé un réseau de correspondants, notamment avec Pierre Tapsoba, qui a été notre correspondant au Burkina Faso là, pendant des années également. Plus récemment, alors là, on est dans les années... Ça remonte à une quinzaine d'années. Ouais, pour nous, c'est récent, mais c'est vrai qu'on est une association qui est sur le terrain depuis longtemps. Et donc, les choses qui nous sont récentes, elles datent déjà de 15 ans. on a eu le temps de faire pas mal de choses. Et donc, il y a une quinzaine d'années, on a rencontré une religieuse Elisabeth. Alors, pas de sœur Elisabeth, hein, c'est Elisabeth. On se tutoie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de prosélytisme, de sujet de confession ou quoi. Elle aide tout le monde, elle est ouverte à tout le monde, quelle que soit la religion des gens. Voilà. Et avec Elisabeth, on s'est efforcé de relancer un programme de parrainage. Alors, je dis relancer parce que j'ai sauté une étape en parlant de Pierre Tapsoba. Avec Pierre, on avait monté un foyer d'hébergement pour permettre à des jeunes filles d'étudier au collège. C'est ça, hein, c'est un peu le fil rouge de notre association. Le fil rouge de notre association, c'est le fait que les études secondaires et supérieures pour les filles au Burkina Faso, mais aussi dans les autres pays du Sahel, c'est pas du tout évident. Dans des milieux modestes, et notamment dans la brousse, nous on intervient en général dans des villages à la campagne, dans des villages de brousse, quand un couple d'agriculteurs a des enfants, qu'il y a des garçons, qu'il y a des filles, on va pas pouvoir payer des études à tout le monde, et donc à chaque fois le choix se porte sur les garçons. Et du coup, et ben notre association a décidé de donner le coup de pouce aux filles. Donc, depuis des années maintenant, c'est essentiellement vers les filles que portent nos actions. Alors, vers les filles pour leur permettre... à une époque, c'était pour leur permettre même de faire une scolarité primaire. Bon, maintenant, dans la plupart des pays du Sahel, les gouvernements ont pris ça en charge et le réseau d'écoles s'est développé, etc. Donc, notre action là-dessus est moins nécessaire. En revanche, dès qu'il s'agit du collège, et a fortiori de l'enseignement supérieur, là, les filles ont vraiment besoin d'une aide, d'un parrainage, en fait, pour pouvoir poursuivre leurs études qui coûtent, quoi. Hein, voilà. Alors, qui coûte vous ne me demandez pas combien ça coûte, mais je vais vous le dire quand même. C'est beaucoup pour le Burkina ou pour ces pays du Sahel. En réalité, c'est relativement peu pour nous. C'est-à-dire qu'avec 175 euros, on assure la scolarité pendant une année entière d'une jeune fille au Burkina. Sa scolarité, l'achat de l'uniforme, en général ils portent un uniforme là-bas, un repas par jour, les fournitures scolaires, et donc évidemment les frais d'inscription, c'était le principal poste. Donc tout ça, avec un parrainage à 175 euros, eh bien on arrive à le couvrir, et on permet à une jeune fille d'être scolarisée en collège, en lycée. Quand c'est le supérieur, c'est un peu plus cher. Voilà.
Et donc, comment ça fonctionne, le principe de parrainage ?
Alors, le principe du parrainage, c'est que... On offre le choix aux candidats parrains et marraines, soit de parrainer une jeune fille nominativement, c'est-à-dire de la connaître, de pouvoir échanger avec elle... On en reparlera des modes d'échange. Là. Je dirais un mot sur WhatsApp qui a changé la vie quand même. Ils peuvent échanger avec cette jeune fille. Ils ont évidemment communication des résultats scolaires de la jeune. Qui leur enverra peut-être aussi un courrier ou deux dans l'année. Voilà. Ça, c'est une des formules. L'autre formule, c'est aussi de pouvoir parrainer, mais non nominativement. Quoi. C'est-à-dire, j'apporte 175 euros pour aider des jeunes filles à poursuivre des études, mais je ne souhaite pas spécialement connaître le nom de la personne. Je fais confiance à l'association. Et ça, c'est bienvenu également comme coup de pouce, parce que... Bah, comme c'est la vie, mais il y a toujours des aléas en cours d'année. Parfois, il y a des parrains marraines qui peuvent pas suivre, ou enfin il y a des événements qui peuvent faire qu'on est bien content aussi d'avoir des parrains et marraines qui souhaitent juste parrainer une jeune, mais sans la connaître nominativement, quoi. Voilà. Mais tout le monde reçoit des nouvelles. Ça, c'est notre credo. Ça, c'est Marie-Claire. C'est Marie-Claire chez nous qui s'occupe de ça et qui s'en occupe avec brio. En général, nos parents marraines la félicitent.
En dehors du parrainage, quelles actions concrètes est-ce que vous mettez en place ?
Alors, des actions, au fil des ans, on en a mené énormément dans le domaine du... Alors, de la scolarité. Avant le parrainage, il y a eu la scolarité. Je parlais tout à l'heure rapidement de l'école de Mankoula qu'on a construite. Ça, on l'a fait à plusieurs reprises, construire des écoles ou construire des classes supplémentaires dans des écoles. On a fait également de l'aide au développement agricole. On a financé des forages pour l'irrigation. On a financé de l'aide à la santé, on a aidé à construire des dispensaires dans différents villages. On a mené, alors là, moi j'étais dans l'association, mais pas encore président. On a fait un grand projet de bouli. Alors un bouli, c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs, une réserve d'eau en fait. C'est une mare naturelle. Qu'on approfondit, qu'on agrandit, on met une petite digue autour et ça permet de retenir l'eau et de cultiver la terre à une période où il ne pleut plus. Parce que voilà, faut expliquer, dire rapidement à nos auditeurs comment ça se passe. Au Burkina, finalement, il pleut autant qu'en Picardie. Il pleut autant, mais c'est concentré sur un mois par an, quoi. Les bonnes années, des fois quelques jours. Et donc là, c'est des trombes d'eau. Et puis après, pendant 11 mois, parfois plus, il n'y a plus d'eau, il ne se passe plus rien, quoi. Donc c'est extrêmement important de pouvoir stocker l'eau pour pouvoir continuer à cultiver, éventuellement faire des cultures de contre-saison, des cultures maraîchères, etc. Voilà. Donc c'est dans cet esprit qu'on avait répondu à une demande du village de Mathieu, voilà, de réaliser ce bouli qui a été un très grand projet, un très gros projet pour l'association et qui a permis de développer les cultures dans ce village et de maintenir des jeunes au village. Parce que la tentation au Burkina, comme ça a été le cas en France à une époque, c'est de quitter les villages, c'est de quitter la terre et c'est de rejoindre la capitale. Et avec la capitale, pour y faire quoi On ne sait pas.
Quand vous parlez de terrain, de réalisation d'infrastructures, est-ce que les membres de l'association vont parfois sur le terrain ?
Alors, oui, nous allions sur le terrain. Ouais. Nous allions chaque année au Burkina Faso. Vous suivez la colline, vous suivez l'actualité comme moi, mmh. Vous savez que la France ou le gouvernement français est brouillé avec non seulement le gouvernement du Burkina, mais aussi celui du Mali, celui du Niger. Enfin, la France, en tant qu'État, en tout cas en tant que... voilà. En tant aussi qu'ancien colonisateur, n'est plus apprécié au Sahel. Bon, ça, entre guillemets, c'est ce que nous disent nos correspondants. D'ailleurs, c'est un peu le théâtre de nos dirigeants, quoi. Ensuite, derrière, il y a toujours des gens qui ont besoin d'être scolarisés, qui ont besoin d'actions de santé, qui ont besoin d'actions de développement agricole. Et là, en fait, avec ces correspondants, on continue de maintenir de bons liens et eux continuent de nous apprécier et sont absolument pas... se reconnaissent pas, quoi, dans la parole de leur gouvernement. Et quelque part, nous non plus, d'ailleurs, avec celle de notre gouvernement. Enfin, je pense à certains voyages maladroits de nos dirigeants en Afrique, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce phénomène-là, plus à un certain moment, là, le développement du djihadisme là, dans ces pays du Sahel, a fait que bah là, ça fait plusieurs années que nous ne sommes plus allés au Burkina. Alors, ça nous a incité aussi à développer, à élargir notre champ d'action. C'est comme ça que la correspondante dont je vous parlais tout à l'heure, Elisabeth, c'est une Burkinabé, mais elle a été envoyée par sa congrégation au Tchad. Et au Tchad, elle était responsable d'un centre de lutte contre le VIH, donc contre le SIDA, quoi, maladie catastrophique au Tchad, par son ampleur. Et comme c'est une battante, Elisabeth, à partir d'un simple centre de lutte contre le VIH, elle s'est efforcée de développer un vrai hôpital. Alors ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Ça s'est fait avec notre aide, mais avec notre aide pour une toute petite proportion. Elle a su frapper aux bonnes portes, elle a su frapper à la porte de certaines organisations non gouvernementales, elle a su convaincre également sa hiérarchie religieuse qui a financé une partie du projet. Elle a réussi à convaincre le gouvernement tchadien de financer des postes de médecins, d'infirmiers, de laborantins. Le dernier projet là qu'on est en train de mener avec elle, qui a été vraiment notre grande cause 2025-2026, c'est l'installation d'un équipement de radiographie dans son hôpital. Parce que des radios. Alors, Elisabeth, elle est au Tchad, elle est dans la deuxième ville du Tchad, elle est à Moundou, deuxième ville du Tchad, très grande ville, qu'on ne connaît pas trop en France, mais très grande agglomération, très pauvre aussi. Et dans cette grande agglomération, bah, pour faire des radios, il y a l'hôpital public. Mais qui fait des radios à l'ancienne, enfin quelques radios à l'ancienne qui sont à peine lisibles, qui sèchent sur des cordes à linge au soleil et qui sont à peine, enfin qui sont même pas exploitables. Donc elle a souhaité équiper son hôpital d'un vrai appareil de radiographie, un appareil moderne comme on a chez nous. Et l'an passé, donc, on l'a aidé à financer l'installation de cet équipement. Voilà. Ça a été vraiment la grande cause de notre année écoulée. Et en fait, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini.
Ouais. De toute façon, il y aura toujours, malheureusement, il y aura toujours quelque chose à faire dans les pays du Sahel. Cette association, vous êtes combien dedans ?
On est une cinquantaine d'adhérents. Alors, il y a un peu de renouvellement hein, au fil des ans, forcément, comme dans toutes les associations, des gens partent, mais des nouveaux arrivent. Et ce qui me fait très plaisir, en tant que président, c'est que dans cette association, on arrive à avoir à la fois de la sagesse et de la jeunesse. Alors la sagesse, oui, c'est quand même bien. C'est bien qu'il y ait des retraités qui soient à la manœuvre parce qu'on a un peu plus de temps disponible. Ça demande quand même beaucoup d'énergie hein, de communiquer avec nos correspondants au Sahel. Je le disais tout à l'heure, ouais, la communication. Alors à une époque, c'était vraiment folklorique quoi, quand ça marchait par le courrier, enfin que ça marchait ou que ça marchait pas par le courrier. On a tous connu ça à une époque, hein, mais avec le Burkina, c'était encore vrai il y a quelques années, et c'était extrêmement compliqué d'avoir des nouvelles un peu suivies et alors d'autant que avec les pays du Sahel, sans doute avec l'Afrique même d'une manière générale, mais on a quand même des différences culturelles. Avec nos correspondants au Burkina, on rentre pas dans le vif du sujet comme on le fait avec des Français. On dit pas bon alors le projet machin, la date de réalisation c'est quand, le coût est-ce qu'il a évolué, c'est quoi les aléas. Non, il faut d'abord prendre le temps de s'assurer que la famille va bien, que tout va bien, que la saison des pluies a été favorable, que les récoltes se présentent bien, etc.
C'est prendre des nouvelles avant de demander.
Absolument. Et donc ça, quand vous le faisiez par courrier, etc. Mais c'était compliqué, très compliqué.
Voilà. Je veux bien le croire.
Voilà. Alors maintenant, il y a WhatsApp, quoi, qu'on utilise tous ici, qu'ils utilisent tous là-bas. Parce que...
C'est international.
Oui. Et puis le Sahel a beau être une zone en développement, tout le monde a son téléphone portable hein, au Sahel. Quand même. Et il les avait en même temps que nous. Hein, parce que notamment la communication, elle était peut-être encore plus importante chez eux que chez nous. Enfin, la communication avec ceux qui étaient partis à la grande ville, etc. Donc, très fort équipement en téléphone portable au Burkina, et ils ont adopté WhatsApp, donc entre eux, mais également avec nous. Et ça a changé la vie, quoi. Ça, pour arriver à la fois à converser avec nos correspondants là-bas, mais aussi à correspondre directement avec nos filleuls, ça c'était presque impossible auparavant. Hein. C'était à travers les correspondants qu'on avait des nouvelles des filleuls. Là, maintenant... Avec WhatsApp, en tout cas avec des jeunes filles qui sont lycéennes, et a fortiori dans l'enseignement supérieur, là on arrive à avoir des relations suivies, on pose des questions, on a des réponses. Ça a radicalement changé la relation et l'efficacité de la relation, quoi.
Alors, pour en savoir encore plus sur l'association, on vous retrouve à Agora samedi, dans un stand derrière la Maison de la Culture. Rapidement, qu'est-ce que vous allez proposer? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre, retrouver toutes les informations, etc.
Alors, Agora, nous, on y est systématiquement, là, chaque année, en effet. Ça nous fait toujours plaisir d'y être. C'est un bon moment, en fait, parce que à la fois, on espère nouer des nouveaux contacts. Et ça arrive chaque année. Chaque année, des gens s'arrêtent à notre stand, s'intéressent, par exemple, au parrainage. Bon, c'est quoi le parrainage? Ça engage à quoi? C'est combien? Ben là, c'est l'occasion d'en parler de vive voix. C'est simple. Et puis, bon, on a quelques membres dans l'équipe qui sont toujours présents sur le stand. Et je crois que c'est surtout elles, d'ailleurs, elles sont convaincantes.
Vous proposez de l'artisanat aussi,
Alors aussi. Mais c'est presque accessoire. La première chose, c'est vraiment la rencontre avec les gens. Alors, avec des gens, entre guillemets, des nouveaux, des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait, mais voilà, qui veulent en savoir un petit peu plus. Et puis aussi par nos parrains marraines actuels, qui sont contents de venir nous voir, on passe un moment ensemble, on discute, nos adhérents d'une manière générale. Quoi. C'est l'occasion de se retrouver. Et puis parfois aussi de nouer quelques relations avec nos voisins d'Agora, parce qu'il y a quelques autres associations qui travaillent sur les pays en développement. Voilà. Donc, alors, vous le soulignez, en effet, aussi, on propose de l'artisanat, voilà, de l'artisanat qui vient du Burkina Faso ou du Sénégal, étant entendu que tous les bénéfices qui viennent des ventes qu'on fait à Agora, ils servent à financer des actions, là, soit des actions de santé, comme je disais, avec le projet de radiographie là, d'Elisabeth, soit contribue au financement de formation pour des jeunes filles au Sahel, quoi.
Alors, vous avez un site internet où on peut vous retrouver, œuvre du Sahel.
Au pluriel. Œuvre au pluriel, du Sahel, tout attaché. .org, oui, œuvre du Sahel.org. Ouais.
Et rapidement, une dernière actualité qui vous tenait à cœur aussi d'en parler.
Ah ouais,
est-ce que vous pouvez nous en toucher deux petits mots rapides?
Oui, merci Colline. Ouais, je suis un peu bavard. Hein. En effet, moi, j'aimerais donner rendez-vous à tous vos auditeurs là, à Pont de Metz le 14 novembre, le samedi 14 novembre. C'est la soirée annuelle qu'on fait avec nos adhérents, mais aussi avec tous nos sympathisants. C'est toujours un moment très chaleureux, très sympa. On commence à 19h et en général, alors ça sera encore le cas cette année, on a une chorale de Pont de Metz, les Mozart en herbe, qui nous soutiennent et qui chanteront pour nous, qui chanteront pour le Sahel. Et puis également un groupe de musique de variété française qui s'appelle Boa, voilà, et qui complétera le programme. Et puis l'entrée sera gratuite. Il y aura un buffet, une buvette. Voilà. Mais ça sera un bon moment et on va le rappeler à tous les gens qui viendront nous rendre visite à Agora.
Un moment convivial donc. Merci beaucoup Philippe d'être venu présenter l'association Œuvre du Sahel et on vous retrouve à Agora.
Sans faute. À bientôt.
Merci vous deux. Alors avant de continuer, on fait une petite pause musicale. On écoute She Looks So Perfect, sortie en 2014. C'est une chanson des 5 Seconds of Summer, un groupe australien de pop rock. La chanson, c'est un peu une déclaration d'amour, de désir, bref, les chansons pop-rock des années 2010, on écoute ça tout de suite.
Swim, you'll drown, but don't move, honey.
Looks so perfect standing there in my American apparel underwear, and I
C'est la deuxième partie de l'émission et je vais vous lire une petite chronique sur un événement qui arrive en cette fin de semaine. La Ferrarock. Alors la Ferrarock, qu'est-ce que c'est ? C'est la Fédération des radios associatives musique actuelle. C'est un ensemble de radios associatives qui émettent en Hertz et qui sont accessibles sur le web. Aujourd'hui, la Fédération compte 26 radios en France et 5 radios cousines en Belgique et au Québec. Ces radios sont des radios alternatives, citoyennes, impliquées au niveau local, donc sur leur territoire, et indépendantes. Par exemple, on trouve Westrack au Havre sur le DAB+, Radio Béton à Tours sur le 93,6 MHz, Radio Panique sur le 105,4 MHz à Bruxelles, ou encore Radio Cybelle à Montréal sur le 101,5 MHz. Cette semaine, la Ferrarock fête ses 35 ans. Pour l'occasion, les 4 et 5 septembre, la Fédération organise un marathon de musique avec 35 heures sans dormir, émis depuis les studios de Canal B, par endroits à Rennes et sinon partout grâce à la FM. Le but, c'est de fêter les radios associatives avec de la musique et des émissions en public. L'événement se clôture par un concert et un DJ set avec Mossaï Mossaï, un groupe de rock de Tours, et CAR, projet musical de Chloé René qui mêle musique électronique et punk. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site de la fédération ferrarock.org. Voilà, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se quitte en musique avec Guts Country des Lambrini Girls, un groupe de punk rock anglais. Donc Guts Country, c'est le pays de Dieu et c'est une critique du gouvernement de la Grande-Bretagne et elle pointe l'hypocrisie du nom Grande-Bretagne. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens.